Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
On va commencer cet entretien hebdomadaire par des nouvelles internationales. 216 Israéliens avaient été pris en otage le 7 octobre 2023. 50 ont été tués, 116 ont été libérés. Les derniers survivants ont été rendus à leur famille et à leur pays après 2 ans de captivité en ce début de semaine. Alors on ne va pas faire de géopolitique, mais quand même, on ne peut pas passer outre cette nouvelle qui concerne le monde, qui vraiment nous rappelle aussi tout ce que vous nous avez dit dans les émissions précédentes sur l'importance de la paix dans le monde et dans nos cœurs.
Oui, voilà, donc je ne vais rien dire de plus ou d'original. En tout cas, on ne peut que se réjouir de chaque pas qui permet aux prisonniers injustement emprisonnés de rentrer chez eux, de retrouver leur famille, de quelque camp qu'ils soient, enfin bon, etc. Donc on ne peut que se réjouir de ça, bien sûr. Mais les caméras du monde sont braquées sur ces prisonniers-là et bien d'autres dans le monde sont retenus dans l'indifférence la plus totale. J'entendais ces jours-ci à la radio le témoignage de deux Français qui sont détenus actuellement en Iran depuis pas mal de temps maintenant, sur une fausse accusation, qui servent de monnaie d'échange et qui sont détenus dans des conditions absolument épouvantables. Mais c'est le cas combien de fois en Afrique et dans d'autres régions du monde. Bon. Donc, bien sûr, on ne peut que se réjouir de ce qui vient de se passer, sans oublier les morts. Malheureusement, parmi ces otages de la première heure. Mais il faut continuer de prier pour que les hommes deviennent sages au sens biblique du terme et retrouvent du bon sens, mettent en place de la justice, parce que l'injustice crée la guerre. De la fraternité, parce que le refus d'aimer l'autre crée la guerre, et c'est tout cela qu'il faut évidemment mettre en chantier à chaque instant, se réjouir de ce qui est réjouissant, que ce soit à chaque fois un encouragement pour faire les pas suivants, et soutenir ces pas, quels que soient ceux qui proposent de les faire. Et même si les motivations de ceux qui proposent de faire ces pas peuvent être ambiguës, n'empêche que si le résultat est quelque chose qui va dans le sens de la paix, eh bien il faut s'en réjouir toujours.
Vous pensez qu'on arrive à ces situations-là parce qu'on a peur les uns des autres ? On ne se connaît pas, on a peur de l'autre, on a peur du voisin ?
Oh, vous savez, oui, bien sûr, les racines sont profondes dans le fonctionnement du cœur humain et de son esprit. Après, à cette peur-là, naturelle, on va dire, et viscérale première, sur cette peur-là viennent se greffer des tas d'autres choses, y compris des gens qui l'exploitent à des fins politiques et voilà, de manière intéressée, pour servir leur propre intérêt ou leur propre cause. Bon, ben voilà, il faut lutter contre ces sentiments-là et essayer d'éveiller un esprit critique qui permet aux gens d'être libres, de ne pas se laisser trop manipuler par les uns ou par les autres, enfin, et puis de vaincre ces sentiments de haine qui peuvent naître dans nos cœurs, ou de méfiance, ou de défiance, ou de rivalité, de... Oui, de haine, enfin, tout ce qui alimente la haine, il faut désamorcer ça. Enfin, et alors, pour un chrétien qui ambitionne de mettre ses pas dans ceux du Christ, eh bien, il faut accueillir les commandements du Christ, y compris celui de l'amour de l'ennemi, pour désamorcer ce cercle infernal, et le mot est choisi à dessein, de la violence et de la mort, finalement, pour faire que la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la résurrection du Christ sur la croix, eh bien, elle soit effective dans toutes nos affaires, petites et grandes, que ce soit à l'échelle locale, hein, dans une famille, dans une communauté, dans un diocèse ou à l'échelle mondiale. C'est exactement les mêmes mécanismes qui sont mis en œuvre et qu'il nous faut identifier pour les désamorcer. Il n'y a pas de petite contribution à cette œuvre de résistance à l'esprit du mal pour faire vaincre l'Esprit Saint, quoi, et puis la vie telle que Dieu nous donne de la servir et de la comprendre.
Merci, Monseigneur. Alors, on va parler maintenant de la vie de notre diocèse, le diocèse de Tarbes et Lourdes. Ce jeudi 16 octobre, s'est ouvert le pèlerinage annuel de la Bigorre et des Quatre Vallées, vous y tenez bien sûr, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Ce sont, comme chaque année, les enfants des écoles catholiques qui ont ouvert le bal, ouvert les festivités. Vous avez passé un moment avec ces enfants qui sont venus prier Marie.
C'était formidable à la grotte jeudi matin d'avoir tout ce parterre de gamins avec leurs accompagnateurs. Il y avait quelques parents, les enseignants, etc. C'était magnifique, magnifique, magnifique. On avait la chance d'avoir une journée superbe en plus qui a consolé tout le monde de la pluie diluvienne de l'année dernière, le même jour. Et c'était un temps, voilà, de prière joyeuse devant la grotte, de réflexion, de méditation aussi sur le thème de l'espérance, puisque c'est l'année jubilaire qui nous y pousse. Et puis un temps de repas partagé, et après je suis parti pour d'autres activités de mon côté, mais la journée a été très très riche pour eux, et de voir beaucoup de sourires sur les visages et des enfants et de ceux qui les accompagnaient était un vrai réconfort et de bon augure pour la suite du pèlerinage diocésain.
Alors justement, la suite du pèlerinage diocésain, quand même, on va s'arrêter là-dessus, puisqu'au moment où cette interview est diffusée, ben, il est encore temps de se décider pour venir rejoindre les quelques milliers de pèlerins de la Bigorre et des Quatre Vallées qui vont venir à Lourdes ce week-end. Pourquoi c'est important de participer à ce pèlerinage ?
Parce qu'on est une famille. On est une famille diocésaine. L'Église, c'est une famille. Et le diocèse, ben, c'est une portion de cette Église et de cette famille ecclésiale qui, parce qu'elle est unie et fraternelle, c'est le livre des Actes des Apôtres, la méditation des Actes des Apôtres et de la première communauté chrétienne qui nous renforce dans cette conviction, eh bien, elle est missionnaire. Or, nous sommes faits pour témoigner de la bonne nouvelle, de l'espérance qui est en nous, de ce que le Christ vient apporter au monde. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. On n'a pas d'autre raison d'être que celle-là. Et donc, pour exercer cette mission, pour l'assumer, pour la déployer pleinement, il faut que nous le fassions en Église, ensemble. Et donc, il faut qu'on s'entraîne en diocèse à donner ce témoignage-là et à le faire, donc, en dépassant nos envies, nos intérêts, nos désintérêts, le fait que j'aime bien ceci, que j'aime pas cela, j'aime bien celui-ci, j'aime pas celle-là, etc., etc., de traverser cela et de constituer l'Église famille que nous sommes par essence profonde, parce que c'est ça que le Christ nous confie d'être et nous donne d'être, est quelque chose d'extrêmement important. Alors, parce que c'est au-delà de nos seules capacités humaines de décision, de volonté ou de sentiment, eh bien, on demande au Seigneur de nous en faire le don, et un don que l'on désire accueillir. Et pour cela, on vit des pèlerinages, où on entre pendant un pèlerinage dans une démarche commune de conversion, aussi bien personnelle que collective, communautaire. Et en cette année particulièrement, c'est très important, puisque le diocèse, depuis le 1er septembre, est désormais engagé dans un processus qui sera long, mais de réformes profondes, de réidentification de ce que nous sommes et de ce pourquoi nous sommes envoyés en mission, eh bien, c'est important de demander à la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, comme on l'a fait à Notre-Dame de Pietat, de Garaison, Puellaun et As, eh bien, de nous aider vraiment à faire que tout cela porte du fruit, à résister à l'esprit du mal qui toujours cherche à diviser, à troubler, à dire que ça sert à rien, à dire que tout ça, c'est bien compliqué, enfin bon, et à aborder les choses humblement, mais avec détermination, enthousiasme, pour constituer cette famille-église qui témoigne du Christ. C'est ça le fond de ce que dimanche je vais déployer avec tout le diocèse rassemblé, qui est le fond de ma lettre pastorale qui sera disponible dans les prochains jours.
Alors pardon, mais je me fais un petit peu l'avocat du diable, Monseigneur, mais moi qui ai la chance d'aller de part et d'autre dans nos vallées, j'en rencontre parfois des personnes qui disent, moi j'ai vraiment la foi en Jésus-Christ, je me sens vraiment membre de l'Église catholique, attaché au Christ, j'ai une vie de prière, le dimanche je vais à la messe là où j'ai envie d'aller sur le moment, mais j'ai pas envie de m'enquiquiner à me sentir attaché à une paroisse, me sentir obligé de m'engager dans une paroisse, et ma foi, La réunion de tout le diocèse en pèlerinage diocésain à Lourdes, je ne me sens pas tellement concernée, mais par contre, je me sens quand même concernée par Jésus-Christ et par l'Église. Il y a des catholiques comme ça. Qu'est-ce qu'on leur dit?
Eh bien, c'est dommage parce que c'est imaginer une table de famille où les enfants ou les autres membres de la famille ne vont picorer que quand ils en ont envie, que quand ils ont faim, sans se préoccuper du tout de l'esprit de famille, sans se préoccuper du tout de ce que les autres en pensent, etc. Si jamais la famille n'est rassemblée autour de la même table pour partager le même pain au même moment, eh bien, je donne pas cher de la survie de cette famille-là. Voilà, c'est tout. La comparaison est celle-là. Et donc, c'est dommage. Bien sûr qu'on va pouvoir survivre pendant quelque temps en ne faisant que ce qui nous plaît, que quand ça nous plaît. Mais l'Église va disparaître, tout simplement. Et le jour où l'Église a disparu, ben, il n'y a plus le boulanger qui fait le pain et je n'aurai plus rien à picorer sur la table. Voilà. Donc, c'est un devoir aussi. C'est pas simplement j'y vais quand ça me plaît, quand j'en ai envie. Mais c'est un devoir de donner corps et chair à l'Église pour qu'elle puisse continuer de nourrir ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et qui n'ont pas eu encore la chance de pouvoir approcher ce pain. Et pour pouvoir l'offrir, ce pain, ben, il faut qu'il y ait une famille qui le prépare, et ça, c'est l'Église qui se rassemble. Qu'on en ait envie ou pas, il faut se lever tôt le matin pour allumer le four, pétrir la pâte et faire le pain qui ensuite pourra être distribué aux autres.
Monseigneur Mika, dimanche dernier, le 12 octobre, c'était la fête à Saint-Savin. Saint-Savin qui est un des primo-évangélisateurs de la Bigorre. Vous avez à cette occasion, dans votre homilie, parlé de la louange. Alors, ça m'a marqué parce que dans notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes, il y a de nombreux groupes de louanges, beaucoup de personnes qui se retrouvent pour louer le Seigneur. Et c'était comme la première fois que je vous entendais parler ainsi de la louange. Vous avez notamment expliqué que nous avons vraiment été créés pour rendre gloire à Dieu, pour louer Dieu. Est-ce que pour les auditeurs de Radio Présence, vous pouvez redire un petit peu en substance pourquoi la louange est tellement importante dans nos vies de chrétiens ?
C'était un commentaire de l'évangile des 10 lépreux guéris, et bien il y en a un seul qui fait demi-tour pour aller rendre grâce à Dieu en remerciant Jésus. Et j'insistais pour dire que lui, il a fait vraiment ce pourquoi nous sommes faits, que rappelle Saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, l'homme a été créé pour cette fin, louer le Seigneur son Dieu. L'honorer, le servir, et c'est dans la mesure où il fait cela qu'alors il est finalement sauvé. Et tout ce qui a été créé d'autre sur terre est mis à la disposition de l'homme pour lui permettre de poursuivre la fin, l'objectif de sa création, ce pourquoi il a été fait. Et donc ça a été pour moi l'occasion en effet de développer l'idée que peut-être on n'a pas suffisamment conscience que nous sommes d'abord créés pour louer Dieu. C'est là notre vocation la plus intime, la plus profonde, et c'est dans la mesure où nous sommes ajustés à cette vocation, à ce pourquoi nous sommes faits, la louange de notre Créateur, l'action de grâce, la reconnaissance, et c'est le sens de l'Eucharistie, on se retrouve pour célébrer l'Eucharistie, pour louer notre Créateur, parce qu'on est fait pour ça. Et c'est dans la mesure où on est bien aligné sur ça que tout le reste va s'aligner dans notre vie derrière, comme une conséquence, et pas l'inverse. On ne va pas louer Dieu pour le remercier parce qu'il a répondu à nos prières, on va le louer parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'il nous sauve, et parce qu'on fait ça, alors le reste va s'aligner dans notre vie et dans le monde. Et du coup, je rends grâce à Dieu pour tous les groupes de prières et de louanges qui gratuitement font cela dans notre diocèse, et qui ne manquent pas d'ailleurs de le faire au nom du diocèse, je leur en suis extrêmement reconnaissant.
Merci pour eux, Monseigneur Mika. On vous retrouve ce week-end, bien sûr, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors, on le rappelle, il y a de nombreux rendez-vous samedi et dimanche qui sont ouverts à tous, sans inscription, gratuits. Toutes les informations sont sur le site du diocèse catholique65.fr, également sur l'application Au Clocher. Dimanche, c'est vraiment la journée où toutes les paroisses vont se rassembler, rejoindre les jeunes, les pèlerins malades, les hospitaliers qui seront déjà là. Et vous serez là, bien sûr, Monseigneur, avec ce temps fort à 11h. En l'église Sainte-Bernadette au sanctuaire pour nous donner vos orientations pastorales et puis un midi festif et un après-midi priant. Voilà ce qui nous attend.
Voilà, jusqu'à la messe de clôture mardi à la grotte à Lourdes.
Merci beaucoup. Bon pèlerinage, Monseigneur.
Merci et au plaisir de vous retrouver tous à Lourdes pendant ce pèlerinage.